Il y a aussi ce qui m'a un peu frappée, c'est l'absence de l'État dans l'ensemble de la des processus décisionnels, l'absence de l'État arbitre qui paraît extrêmement handicapante pour l'absence de l'État intérêt général. Tu vois ce que je veux dire, voilà.
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est peut-être plus que sur le fond, c'est le mode projet à la communauté urbaine de Lyon. J'ai trouvé qu'on aurait peut-être pu parler davantage de la méthode plutôt que les sujets proprement dit, y compris l'usage du débat effectivement là-dedans. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est le débat qui a été ouvert par le représentant de la communauté urbaine de Lille sur l'opposition entre modélisation d'un côté et puis évaluation-comparaison de l'autre, l'intérêt des deux méthodes dans les choix ou dans les orientations de politique publique.
En tant que travaillant dans une chambre de commerce, ça m'a intéressé justement par rapport aux prises de position que la chambre peut prendre par rapport à ce genre de débat. Ce qui m'inquiète plus, en fait, ce qui m'inquiète un peu dans cette logique de débat public, enfin, on voit qu'on en a eu quelques-uns avant, et on a le même problème de contournement qui ne sort pas. Et le débat public qui avait eu lieu il y a 4-5 ans tombe là au mois de novembre. Donc on va être obligé. Donc c'est, et très intéressé aussi par le fait d'une forme d'impuissance. Parce qu'un passage en force, c'est finalement une forme d'impuissance. Hein. Donc on a l'impression que, d'un côté, étant un peu économiste de formation, j'aime beaucoup cette approche en termes d'essayer de rationaliser les choix. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est de plus en plus dans le débat, et finalement, dans l'opposition d'opinion, et on aboutit, même si on essaye de rationaliser certains choix, à des formes de non-prise de décision. Et plus particulièrement, enfin, je ne vais pas apporter le jugement, j'aime bien justement ce que j'avais moi de Rouen l'impression, et je pense que c'est une réalité, que Lyon est une place économique puissante et qui est plutôt dynamique et qui donne l'impression quand même d'une certaine unité hein, quand on les voit au MIPIM ou dans les grands salons. Et ça me fait. Je vois que finalement on a un peu les mêmes problèmes qu'à Rouen en termes de décision publique.
Quand on se considère, on se désole et quand on se compare, on se rassure.
Bon, alors je referai mon tour. Quand hier j'étais aussi assez perplexe quant au recours au débat, enfin au fait de mettre le top au débat public en disant ben ça va forcer tout le monde à prendre ses responsabilités. D'autant plus que moi j'avais expérimenté un autre type de procédure, les enquêtes publiques, bon, c'est différent, et que si on n'arrivait pas avec un dossier extrêmement structuré, on arrivait nulle part. En fait, j'ai discuté avec Capucine Jérusalem qui sort d'un débat public et qui m'a raconté la façon dont ça s'était passé. Et apparemment, effectivement, ça a permis de claquer. Bon, il y avait des opposants, c'était par rapport à un projet de tronçon dans sa zone. Il y avait des opposants qui avaient peur que ce projet de tronçon tue un autre projet de tronçon qui, eux, les intéressait. Et ça a permis de bien clarifier le débat, et ça a permis, en plus, en mettant la problématique du deuxième tronçon sur la table, qu'un politique prenne position en promettant de financer le deuxième bout de tronçon. Donc, en écoutant cette expérience, j'ai mieux compris ce qu'attend la communauté urbaine de Lyon, le débat public, par rapport à une prise position de l'État. Voilà.
Je dirais que le débat qui a lieu cet après-midi était intéressant, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre les difficultés de modélisation et finalement ses faiblesses pour enrichir la prise de décision de l'élu, et ce sur quoi nous travaillons actuellement à la Caisse des dépôts, à savoir comment on peut internaliser des externalités environnementales de manière à mieux préparer la décision de l'investisseur, notamment en matière d'infrastructure. Et je trouve qu'on réfléchit sur des outils, etc., de manière à avoir une approche qui soit pas uniquement financière, pour un investisseur de long terme, c'est quand même assez essentiel, mais vous m'avez envoyé beaucoup d'interrogations sur la solidité des modèles, leur fiabilité, etc. Je trouve aussi que c'est une vraie inquiétude, parce que moi qui crois beaucoup au débat public, la manière dont il est envisagé ce débat public dans ce qui nous a été présenté hier m'inquiète un peu. Parce que justement, je trouve que les fondamentaux, les soubassements de la prise de décision sont tellement faibles à ce stade que la question qu'on pose au débat public et ce qu'on attend est quelque part peut-être un peu surévaluée, tant le politique manque de visibilité quant à son point d'arrivée. Et je trouve que si on ne positionne pas bien ce qu'on attend du débat public, on risque de tuer les vertus de cet exercice citoyen.
Oui, juste deux points, un point pour, par rapport au rôle de l'État, puisque pour rappeler que récemment la Constitution française a été modifiée et a introduit un article qui dit que l'organisation de la France est décentralisée. Donc il n'est pas étonnant que sur des sujets locaux, l'État laisse les collectivités décider. Le deuxième point, c'est que le débat public top, je pense que l'exemple est vraiment intéressant parce qu'il montre que finalement, on en est arrivé au stade dans notre pays à devoir envisager de lancer un débat public simplement pour avoir la chance, enfin en tout cas pour forcer à lancer un autre débat public qui, si j'ai bien compris, porte sur l'ensemble, on va dire, de la problématique des déplacements dans la région lyonnaise. Donc ça montre quelque part un petit peu à quel point aujourd'hui il est difficile de prendre des décisions. Et évidemment, je suis pour le débat public, hein, mon propos n'est pas du tout de dire non, il faut prendre des décisions de manière non démocratique. Mais en même temps, je dirais, voilà quoi, on est aujourd'hui dans une situation où les débats, me semble-t-il, se sont beaucoup idéologisés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il est grand temps de réintroduire une approche, on va dire, rationnelle, scientifique, lorsqu'elle est pertinente, pour que les décisions soient prises de la manière la plus intelligente et optimisée pour l'intérêt général.
Moi, j'ai un peu le même type de réaction. Je trouve que les choix d'investissement, c'est des investissements importants, ne sont pas très argumentés et sont pas très. Enfin, ça manque d'argumentation qualitative, quantitative. Souvent, on a entendu, je suis un peu désolé de le dire, mais bon, notre président pense que. Et tout ça n'était peut-être pas très, très, très étayé. Alors, si les choix d'investissement dans une entreprise n'étaient pas plus étayés, enfin, quand on se trompe dans une entreprise, on a tout de suite, 3-4 ans après, on a le retour et c'est catastrophique. Quoi. Alors, moi, je me pose un peu la question de comment on mesure le retour là, sur des décisions qui concernent des infrastructures. Bon, c'est peut-être un petit peu moins visible, mais en tout cas, enfin, je pense que ça manque de. Il faut travailler beaucoup plus en profondeur, effectivement, sur les sujets. Je ne sais pas si c'est le débat public qui peut permettre d'avoir plus de rationalité. J'en sais rien, je ne suis pas sûr. Hein. Et je pense qu'il faut effectivement autant d'expertise, comme tu l'as dit un peu en conclusion, que de débat public. Mais ça m'a. Parfois, il m'a semblé que ces choix d'investissement manquaient d'expertise et de rationalité. C'est peut-être bon, hein, mais c'est par hasard.
Oui, c'est ça. Quel est le prix de l'incertitude, en fait ? Combien ça coûte de vivre dans un monde incertain ?
Oui, ça rejoint un peu ce qui a été dit, mais moi, ce que je trouve frappant sur ces deux jours, c'est finalement que ça illustre très largement la difficulté de la prise de décision aujourd'hui sur des grandes opérations d'aménagement. Les collectivités ont moins de mal à définir des stratégies générales qu'à définir des objets précis d'aménagement quand ils sont coûteux. Alors ce qui tombe bien, c'est que les collectivités ont aussi moins d'argent, alors parfois peut-être que l'un s'explique par l'autre. Ça veut dire qu'on rend artificiellement une décision complexe pour ne pas avoir à sortir l'argent trop vite non plus. Ça peut être parfois un objet, tout en donnant l'impression qu'on a de grandes ambitions d'aménagement. Alors ça illustre aussi peut-être que le fait que finalement la gouvernance des choix d'équipements à faire sur le territoire est complètement en crise. Et que finalement, même les choix à faire, personne n'est plus très bien sûr de quel choix il faut faire. Et c'est la manière dont la question du développement durable a impacté une partie des choix historiques qu'on faisait sur l'aménagement du territoire. Ils sont en pleine contradiction et aujourd'hui, personne ne sait plus très bien quel choix il faut faire. Donc ça, c'est le côté un peu difficile de ce qu'il faut prévoir. Peut-être que demain, il y aura plus de certitudes sur les choix qu'il faut faire, c'est pas évident. Alors, il y a quand même un côté positif là-dedans, c'est que je trouve que finalement, la difficulté à faire, elle est aussi liée au fait qu'il y a de plus en plus d'intervenants dans les débats, et avec un niveau de connaissance qui est plus fort quand même malgré tout, c'est-à-dire même quand on parle de débat public, tout le monde s'intéresse finalement maintenant aux questions d'aménagement du territoire. Donc il y a là où dans les années 50 ou 60, finalement, le citoyen lambda se laissait faire tranquillement, aujourd'hui, il veut en parler, il veut en discuter, il veut intervenir dans le débat. Donc ça, c'est plutôt un côté positif, même si le résultat, c'est que parfois ça bloque tout.
C'est clair, ça, ce que tu dis me paraît extrêmement important. Au fond, j'y avais jamais pensé en ces termes. C'est que finalement, sur la route, ce qui s'est passé avec plein de choses, et notamment les préoccupations environnementales, développement durable, c'est une rupture de consensus historique. C'est-à-dire que pendant 40 ans, 50 ans, il y a eu un consensus fort, collectif, en France et ailleurs d'ailleurs, pour produire de la route, du véhicule, etc., avec un modèle qui était un modèle dominant. Et là, on est dans une période où ce consensus-là s'est rompu. Voilà. Et nous sommes durablement installés dans une structure controversée. Voilà. C'est ça qu'il faut gérer, et alors le gérer le mieux possible, y compris quand même avec un minimum de démonstration objective.
D'autres remarques? Ah oui, il y a encore deux représentants de l'État.
Oui, voilà. Effectivement, c'est un représentant de l'État que je peux m'exprimer. C'est toujours été intéressant. Les expériences présentées pour Lyon étaient d'une grande complexité, mais bon. Dans mon rôle au niveau de Réal, Franche-Comté, j'ai aussi des sujets comme ça, de ferroviaire, de route. Donc le fait d'avoir une présentation par la collectivité locale donc des enjeux qu'elle a autour de ces sujets-là, c'est intéressant parce que ça retentit sur d'autres dossiers effectivement, que je peux voir à connaître et pour lesquels je dois défendre certaines positions d'État. Alors je voulais surtout revenir sur cet aspect de décision, enfin de bons projets, etc. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de solution unique, c'est complexe. Enfin, je pense quand même, moi j'étais heureux de ta conclusion, quoi. Je pense qu'il faut quand même aller au débat public avec des expertises suffisantes, avec des argumentaires et puis essayer de les enrichir. Mais je pense qu'on a vraiment besoin, et je suis heureux aussi d'entendre M. Bonafou qui dit qu'il y a une volonté de relancer, comme vous avez dit, l'objectivisation des choix publics au niveau mondial, rationalisation des choix publics. Enfin, je pense qu'on a besoin, la population, enfin l'ensemble des gens ont besoin que les choses soient objectivées et argumentées. Je trouve que même s'il n'y a pas de solution unique, il ne faut pas aborder les choses avec dogmatisme. On disait tout à l'heure le courant à la mode en ce moment, c'est plus faire de route. Je ne sais pas si évident que ça. Il y a sur un certain nombre de territoires ruraux encore des défenseurs acharnés par principe de la route. Quoi. Donc je pense qu'il faut dépasser un peu tout ça. Quoi. Et essayer d'aller vers un peu plus d'argumentaire et d'objectivation. Voilà, et puis je pense aussi qu'on fera quand même de moins en moins d'infrastructures nouvelles, ferroviaires ou routières, parce que l'acceptabilité est quand même de plus en plus difficile. Et le vrai enjeu, je pense qu'il est plus à essayer de traiter l'existant, donc ça peut nécessiter des investissements. On a abordé brièvement le problème du nœud ferroviaire de Lyon, mais ça doit être un vrai sujet compliqué et qui mérite de s'en occuper. Et puis, sur les routes, il y a un vrai sujet sur l'exploitation, l'évolution. On ne va pas toutes les casser. Donc, il faut bien qu'on pense à savoir ce qu'on va faire de ce patrimoine pour qu'il réponde aux besoins du futur.
Peut-être alors aussi, d'abord... En tant que natif de Lyon, je suis ravi de voir que Lyon est toujours reste un laboratoire d'idées et que beaucoup de choses se font, voire s'inventent, y compris ici. Et puis, ensuite, par rapport à ce que tu as dit, Philippe, sur l'aspect de, enfin, je ne sais plus quel terme tu as employé, mais que le consensus sur les, quelque part sur les grands projets, etc., d'aménagement, aujourd'hui, on était obligé, était derrière nous et qu'on était beaucoup plus. Je ne sais pas s'il y avait vraiment, avant, consensus. Enfin, pour avoir, comme toi, réfléchi sur la problématique des grands ensembles, on est là encore aujourd'hui à expliquer que pourquoi on a construit les grands ensembles dans les années 60, les années 70, mais on a toujours pas trouvé aujourd'hui encore les moyens, en tous les cas, de vraiment travailler efficacement sur les problèmes, les questions que ça met en évidence, quoi. Donc, je ne sais pas si... moi, je trouve que j'aurais peut-être un peu plus optimiste, qui est de dire que, en fait, je veux dire, forcément, on fait des erreurs dans les choix qu'on fait. Enfin, je veux dire, on voit ce quartier de la Part-Dieu qui a été, je crois que c'est les années 60, fin des années 70, je crois, le quartier de la Part-Dieu. Ben, on voit aujourd'hui les erreurs qui ont été commises. On ferait complètement différemment, et tout ce qu'on a eu comme explication ce matin, on voit ce qu'il faudrait faire, la limite, c'est d'aller le reconstruire. Bon, moi je crois que aujourd'hui, effectivement, le fait qu'on ait peut-être plus ces certitudes, ou qu'on applique peut-être plus des choses comme ça un peu monolithiques, je crois que c'est plutôt rassurant. Alors ça, effectivement, ça ne simplifie pas la décision, ça ne simplifie pas tous les travaux qu'il faut faire, etc., mais c'est, je trouve, plutôt rassurant, et puis ça se fait. De toute façon, on est poussé aujourd'hui, donc ça se fait. Donc voilà, donc c'est plutôt un propos optimiste, et je trouve que sur ces deux journées, elles ont été extrêmement bien montées. Moi, je suis vraiment très content, en tout cas, des études de cas qu'on nous a mis sous les yeux et auxquelles on a pu sur lesquels on a pu réfléchir et apporter des contributions.
Moi, ce qui m'a particulièrement marqué pour ces deux jours, c'est l'importance de la question de la finalité et du sens. C'est-à-dire que finalement, il est assez facile de rationaliser quand on sait où on veut aller. Il est assez facile aussi de mener un projet quand on a donné l'objectif de le faire. Et je pense que, pour revenir à la question du temps que posait Olivier Frérot, c'est que je pense que le temps et l'avenir n'est plus conçu comme relativement fermé aujourd'hui par la plupart des gens. Et comme le temps et l'avenir est ouvert, on a du mal à dire, eh ben, la finalité c'est ça, ou le sens c'est ça, et donc on y va. Et du coup, la grosse question, c'est que peut-être des pays font ce qu'on appelait tout à l'heure consensus, c'est-à-dire que l'Allemagne s'est dit, il faut que je reste compétitif, et du coup va mener, à la fois dans ses choix d'infrastructure, d'aménagement, une logique, parce qu'ils ont bien identifié une de leurs finalités. Et que la question est peut-être de savoir quelle est la finalité qu'on n'a pas encore choisie sur ce que l'on veut faire de notre temps, ce que l'on veut faire de notre qualité de vie, ce que l'on veut faire de notre économie, et que aujourd'hui, on n'a pas cette idée de finalité.
Ce matin, on a assisté à l'acte de décès d'Adatar. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. C'est-à-dire que ce matin, vous avez dit explicitement que le deuxième pôle tertiaire de France allait augmenter de 60%, avait quasiment doublé, et que finalement, l'État s'en foutait. Et alors moi, je dois dire que j'ai trouvé vraiment... Mais c'est fulgurant ce qui s'est passé ce matin, parce que c'est vraiment ça. On double la Part-Dieu, on fait un projet majeur sur la Part-Dieu. C'est le deuxième pôle tertiaire, c'est l'avenir d'une partie du pays qui s'avance, là. Et silence total de l'État. Et donc, si la DATAR savait plus que l'aménagement rural, très bien, Mais l'aménagement rural, c'est pas ça qui construit l'avenir du pays. Et donc là, j'ai vraiment eu une fulgurance que je n'avais pas eu depuis les 8 séances du séminaire qu'on a ensemble à peu près, hein, que je n'avais pas eu depuis 8 séances, où là, je me suis dit, mais où va-t-on ? Alors peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ce... Je ne sais plus qui parlait de République décentralisée, c'est peut-être ça, République décentralisée, mais ça veut dire qu'on n'a plus de pensée collective sur l'avenir du pays, y compris sur le développement économique du pays. Ça, voilà, enfin, il y a un moment... Il y a quelque chose qui s'est passé ce matin, que je ne sais pas encore complètement, de vertige, que je ne sais pas encore complètement analysé, mais que je trouve complètement vertigineux. Beaucoup plus que hier, pour savoir si l'État ferait le col ou pas, dans ma foi, qu'on fasse ou pas le col, ça ne changera pas grand-chose à l'avenir du pays. Que la part du double ou pas, là, il se passe quelque chose, je pense.
Merci. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette ouverture vertigineuse ? Oui, vas-y.
Oui, en tant que Stéphanois d'origine, je considérerais toujours que Lyon est la banlieue de Saint-Étienne, ville mineure. C'est vrai qu'on assiste à une vampirisation de l'ère métropolitaine lyonnaise, au détriment, malheureusement, heureusement, c'est un point de vue, au détriment des pôles urbains limitrophes, et on peut se demander jusqu'où. Peuvent aller ce type de mouvement. On sent bien que des aires métropolitaines d'envergure européenne telles que Lyon, telles que Marseille se comparent à d'autres régions européennes et on assiste à une fuite en avant, une course effrénée à la compétitivité, à l'attractivité, et on se demande dans quel but et où cela peut aller. Deuxième point, j'aurais aimé également avoir le point de vue des politiques de la communauté urbaine de Lyon. À aucun moment on a évoqué. On est sur un mandat politique et beaucoup d'intervenants ont justifié la réalisation du projet en disant que c'est le ou les projets du mandat. Or, pendant ce mandat, il y a eu quand même une réforme assez significative du mode de financement des collectivités locales. Et à aucun moment j'ai l'impression que cette réflexion a été intégrée dans les projets qui sont portés par, en tout cas, le Grand Lyon. À un autre niveau, au comité d'agglomération de 130 000 habitants, l'impact de cette réforme des finances locales sera considérable dans notre manière d'aborder le développement économique, entre autres. Donc, on est là encore sur un plan d'action, sur des promesses sans connotation vulgaire de ma part, mais sur un exercice politique de présentation d'enjeux et de projets qui ont été validés par les Lyonnais, qui doivent être réalisés au cours du mandat. Il y aura forcément des ajustements à réaliser dans les mois et dans les années qui viennent.
Oui, j'ai moi aussi une fulgurance, une autre, parce que finalement, je me rends compte que, par l'exemple lyonnais, aujourd'hui, ce qui il y a 10-15 ans était sans doute impossible, les thèmes de décroissance qui résultent, hein, enfin, j'irais un petit peu de toute l'idéologie ambiante, rendent possible d'envisager de ne rien faire dans une situation qui est pourtant reconnue par tous comme critique. L'exemple lyonnais est un bon exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on admet qu'in fine, aucune décision sera prise, ou alors que, je dirais, ça sera le scénario fil de l'eau qui s'imposera. Il me semble que c'est nouveau. On n'est pas dans le système où on est, par exemple, enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est pour l'illustrer, lorsqu'un pape meurt, les cardinaux se réunissent en conclave et ils finissent toujours par élire un pape, toujours. Là, à la fin, aujourd'hui, on admet, oui, ça peut être long, mais il y a quand même une décision prise. Aujourd'hui, on admet qu'effectivement, rien ne se fasse. Pendant ce temps-là, les Chinois, les Brésiliens, les Indiens, eux, ils décident et ils construisent. Voilà, c'est peut-être un peu provocateur comme discours, mais je dirais, le vieillissement de la population, la volonté, je dirais, partagée par tous, qui est légitime, effectivement, de démocratiser les décisions, ça peut aussi aboutir à un système de non-décision.